Un espace pour les vraies histoires, les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Audrey Pinchot, bon vendredi.
Bon matin.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Yes. Les problèmes avec le char électrique dans le fret en fin de semaine, ça te fait-tu peur?
Pas en tout. Okay. Non, on a eu une chronique avec Sandre Tremblay-Michaud
T'es prête?
Hier. Ben oui, puis en fait, au-delà d'être prête, c'est le fait que c'est moins compliqué dans les grands froids avoir un char électrique, ironiquement.
Oui,
parce que t'as pas autant de machines à partir et à réchauffer.
Okay.
T'as juste une batterie. Moi, j'ai une espèce de thermorégulateur de chaleur. Puis non, c'est vraiment moins compliqué. Il faut que tu y fasses attention comme tout véhicule, mm-hmm. c'est-à-dire que tu la laisses un peu rouler puis s'organiser tout seul avant de partir. Là. Mais c'est moins compliqué.
Bon, mais tant mieux.
Oui, fait que non, j'ai pas peur du tout. Par contre, elle est... Est rangée, mon auto, depuis quelques jours.
Est rangée.
Oui. Je la fais pas chargée, je la laisse en repos. Puis je me promène autrement.
OK. OK. Mademoiselle V, bonjour.
C'est comme une relation amoureuse, mon véhicule et moi. Là,
fait que tu prends plus ton. T'as pas pris ton char cette semaine?
J'ai pas pris mon char dans les deux derniers jours. Je le prendrai pas non plus aujourd'hui ni demain.
Pourquoi?
Peut-être dimanche.
Pourquoi?
Parce que des fois, je fais une overdose de bornes. Puis si je veux garder mon véhicule puis garder une relation saine avec ce dernier,
okay.
On a besoin de pause de temps en temps. Il paraît que c'est sain de temps en temps de prendre le temps de respirer avant de se retrouver. Fait que c'est ce que je fais avec mon véhicule.
Okay.
Fait que la semaine prochaine, ça devrait bien aller. Je compte sur une belle relation. Hey, ce matin, Max, on parle avec Val probablement du sujet qui nous a rassemblés. D'emblée, il y a quoi, mon Dieu, un an et demi facile?
Presque
c'est presque deux ans, oui. Ouais. Val est de base auxiliaire sexuel. C'est ce qui fait qu'on s'est approché puis qu'on a discuté la première fois. J'avais présenté un dossier en ondes sur le métier d'auxiliaire sexuel qui n'est pas connu pas en tout au Québec, pas mal plus en Europe, qui est fascinant. Puis je vais vous inviter... Avant tout, si vous avez envie en fin de semaine d'aller écouter le podcast Sextape, on a tous des podcasts là, Boulevard 102.1. Le mien, c'est Sextape, puis j'ai fait un épisode complet avec Val sur justement cet envers-là du décor quand tu travailles pour les personnes qui ont un handicap.
Ouais.
Puis aujourd'hui, on parle de ce sujet-là qui peut être tabou, c'est-à-dire la sexualité des gens avec un handicap. Parce que t'en as qui naissent avec un handicap, puis t'en as qui se ramassent handicapés.
Ouais.
J'avais parlé avec Claudia qui, elle, dû à une erreur médicale, s'est ramassée quadriplégique. Puis à même game tout d'un coup.
Puis tu
là.
Dis tabou, mais je pense que c'est juste aussi qu'on y pense pas. Tu sais,
c'est méconnu.
Dans ma tête, c'est rare, je me réveille le matin puis je me demande hey, les personnes handicapées, comment ils font pour avoir du sexe?
Ouais.
Alors que c'est quand même intéressant.
Mais on a tendance à penser que les personnes en situation de handicap sont parfois asexuelles. Il y a vraiment des gens qui pensent que parce qu'ils n'ont pas le plein contrôle de leur vie ou de leur mouvement ou de leur santé...
Ils ne ressentent pas le désir.
Ils ne ressentent pas de désir sexuel alors que ça n'a absolument pas rapport, je veux dire.
C'est dans la tête, me semble, en partant, le désir sexuel.
Oui, puis est-ce que le sexe est seulement pour les corps valides, 100% valides, tu sais, 100% fonctionnels? Non, je veux dire, c'est vrai.
C'est qu'on a comme une tendance à penser que la sexualité passe absolument par les organes génitaux.
Mm.
C'est comme c'est l'affaire la plus facile, c'est simple. Tu sais, moi, Claudia m'avait partagé des affaires d'oreilles puis de dedans de coude puis d'autres zones érogènes.
Le dedans de coude.
Oui, mais on a des points faibles sur le corps qui sont plus sensibles. Tu sais, il y en a qui tripent ses pieds, c'est pas pour rien. Fait qu'il y a des zones où il y a une facilité peut-être de ressentir des petits frissons autrement que par les organes génitaux. Mais tu sais, je veux dire, quand t'es valide, je vais le dire comme ça pour utiliser tes mots, Val, quand t'as un corps valide, en pleine fonction,
c'est rare que tu penses au coude en premier.
Non, là, c'est ça. Là, tu diriges entre les deux jambes.
Puis c'est malheureux. On a tendance à penser que les personnes handicapées n'en ont pas besoin, mais c'est absolument pas le cas. Les personnes en ont sinon encore plus besoin de proximité puis d'humanité. On a tendance à penser qu'ils sont asexuels. Hein, ce n'est absolument pas le cas, je viens de le dire. Mais ce qui est une chose certaine, c'est qu'ils vont rencontrer énormément d'obstacles dans l'épanouissement de leur sexualité. Puis tu l'as dit, j'ai été auxiliaire sexuelle longtemps et on a tendance à penser qu'une auxiliaire sexuelle, c'est quelqu'un qui va prodiguer de la sexualité à une personne en situation d'handicap. ce n'est pas tellement le cas, dans le sens où c'est quelqu'un qui va apprendre l'autonomie sexuelle à une personne qui est en besoin de se faire plaisir par lui-même parfois. C'est sûr que dans l'idéal, on voudrait bien qu'il y ait une partenaire, mais si on ne peut pas en avoir une et que ben, une auxiliaire sexuelle, c'est souvent un service qui va être limité. On ne peut pas continuer à avoir ces services-là pendant plusieurs années ou en tout cas, idéalement, on essaie de leur apprendre à prendre soin d'eux-mêmes sexuellement. Mm. Mais il y en a pour qui c'est très difficile parce qu'ils ne sentent pas nécessairement. Fait que tu l'as dit, le pli du coude, les oreilles, probablement étant le premier endroit où on va aller voir est-ce qu'il y a possibilité de ressentir des sensations? Mm. Est-ce qu'il y a possibilité de s'amener un certain orgasme par rapport à ça? Et il faut travailler avec la personne, il faut que la personne soit ouverte d'esprit à ça aussi.
J'ai entendu parler de la nuque aussi. Tu sais, il y a des endroits qui sont plus propices à ça. Oui. Est-ce que tu es conseillère en sexologie, la sexualité, est-ce que c'est un besoin humain? Je vais te dire, je vais utiliser le mot fondamental. On dirait que dans ma tête, ça ne l'est pas. Parce que je me dis, voyons, tu crèves pas, là. Si même à tête, t'as pas de sexualité, là, c'est pas.
Non, mais c'est peut-être plus facile à dire pour les femmes que pour les hommes, dans un sens.
Peut-être.
Hein? Imaginez.
Manger, boire, se loger et faire l'amour.
Voilà.
Moi, c'est les quatre, c'est le carré qu'on
c'est
appelle.
Le pilier, là.
Le carré des besoins.
Puis je dis les femmes, il y a plein de femmes en situation d'handicap aussi qui en ressentent le besoin. Là. Mais moi, j'ai travaillé surtout avec des hommes, on va se le dire, et puis j'ai vraiment senti que c'était un besoin primaire et fondamental, et probablement encore plus que monsieur et madame tout le monde, parce qu'il est limité dans ce qu'il peut faire ou dans ce qu'elle peut faire.
Ça me fait penser à, vous avez sûrement vu ça il y a une couple d'années, tu sais, les beaux malaises, ça a pogné
un
bout avec Martin et Matt, puis il y a un épisode où il amène son frère qui est en chaise roulante, qui a un lourd handicap, voir une prostituée.
Oui.
Puis c'est un. Mais non, mais c'est un épisode. Sur le coup, ça a l'air farfelu parce que t'es comme, voyons, il va payer une prostituée à son frère handicapé, tu sais.
Ouais.
Mais tu réalises à travers l'épisode à quel point c'est un game changer sur l'envie de vivre, la bonne humeur de son frère, tu sais. Puis on pense pas pantoute à ça parce que ça a tellement l'air banal.
Bien, une des conséquences les plus graves de la déprime en situation d'handicap, c'est le suicide. Hein, le taux de suicide est deux fois plus élevé chez les personnes en situation d'handicap et pour une raison qu'on ignore un peu, en Australie, 10 fois plus élevé. On le sait, c'est parce qu'il n'y a pas une grande ouverture par rapport à ça, mais quand même 2 fois plus élevé ici, ce qui veut dire que ben, c'est la première chose qui nous fait peur, c'est est-ce que cette personne-là, elle peut aller chercher cette sensation-là ailleurs au point de ne pas tomber dans la dépression, de ne pas tomber dans le noir, puis de ne pas se dire ben, « regarde, moi, je n'aurai jamais de tout ça. » Fait que ça me donne quoi de continuer à vivre, tu sais. Puis j'ai travaillé avec plusieurs personnes qui ne sont plus là aujourd'hui, soit parce qu'ils se sont enlevé la vie ou parce qu'ils ont demandé l'aide à mourir. Et c'est le cas d'un garçon qui s'appelle Francis, dont la maman Renée m'écoute présentement. Je dis bonjour Renée, ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté que je parle de Francis aujourd'hui. Francis qui était paraplégique, en fait, qui n'avait plus de sensations nulle part dans son corps. Et quand il est décédé, il a fait un petit témoignage. J'aurais aimé ça vous le lire, mais c'est peut-être un petit peu cru. Hein? Fait que si peut-être que vous bouchez les oreilles un petit peu, je vais essayer de rendre
ben,
ça.
S'il y a des enfants pour une drôle de raison à cette heure-ci, avec vous, peut-être, ben, c'est le son, oui, parce que pour avoir lu le témoignage, c'est ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui a mis un peu ses tripes à la table, qui ne mange pas ses mots. Fait que si vous êtes un peu sensible à ça, peut-être revenez dans une minute.
Oui, mais c'est une réalité, tu sais. Francis dit j'ai manqué d'air 13 minutes 23 secondes. C'était suffisant pour faire de moi un être incomplet et incapable de beaucoup trop de choses. Ça fait 25 ans que je continue de manquer d'air. Je vis pas, je survis. Les infirmières démissionnent dégoûtées par mes érections spontanées que je contrôle pas du tout. On comprend que je dois manger, que je dois chier. On comprend que j'ai envie de pleurer, mais il n'y a pas une maudite âme sur terre qui comprend pourquoi moi j'ai envie de respirer. J'ai envie de vivre. La présence d'une femme, d'une auxiliaire sexuelle dans ma vie, c'est pas juste un espoir, c'est pas juste une bouée, c'est une fucking raison de vivre. Elle était là, Mademoiselle V, puis le suicide n'était plus un sujet d'actualité. Fait que ça vous donne une petite idée. Malheureusement, j'ai pas pu rester dans la vie de Francis assez longtemps pour pour pouvoir lui apporter ce qu'il avait besoin pour toute sa vie. Mm. Puis je pense que ça, ça va toujours rester avec moi.
Surtout de ce que je comprends, c'est que Francis, l'handicap est venu... Il n'est pas né avec un handicap, c'est ce que je comprends.
Bien, il est né, c'est-à-dire qu'il a manqué d'air à la naissance.
Ce qui fait que...
Exactement. Okay.
Parce qu'il y a ce côté tragique-là aussi. Tu sais, je disais en début d'émission que... Ben, en début d'open mic, merci Max, que j'avais rencontré Claudia. Tu sais, Claudia, elle, jusqu'à mi-vingtaine... je veux dire, tout allait normalement, la vie était belle, là. Fait que, tu sais, c'est de réapprendre puis d'apprendre différemment à gérer ton corps, ton mental, parce que il doit y avoir une baisse d'estime. Je veux dire, tu dois avoir de la misère avec toi-même, une honte de ton corps à quelque part.
Oui.
Tu sais, j'essaie de me mettre un peu dans la peau d'eux. Tu sais, il n'y a pas question de performance ici, là. Tu sais, il n'y a pas question... d'être accepté par quelqu'un qui va te voir pour ce que tu es puis qui ne se fiera pas juste sur le physique.
Exactement, puis c'est tellement difficile pour eux à trouver. Puis ils n'ont pas toujours non plus envie d'avoir un partenaire qui est limité.
Oui, c'est ça, oui, parce que souvent, tu as l'impression que ils vont trouver leur moitié de pomme, ils vont se comprendre, ils vont...
Voilà, ça a été mon premier réflexe quand je leur parlais au début, mais pourquoi est-ce que tu ne te mets pas à dater sur un site où il y a d'autres personnes en situation de handicap? Puis la réponse, ça a été, ouais, mais moi, j'ai peut-être pas envie qu'on soit deux personnes limitées, là.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, tu sais? Puis je pense que c'est ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est surtout ouvrir la porte. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est en situation de handicap, ce soit un homme, une femme, qui a accès à la sexualité ou pas, si vous êtes sa famille, son entourage puis ses amis, vous avez tellement de pouvoir dans son bonheur au quotidien, là. Moi, les gens qui m'apportaient Francis, qui m'apportaient Anthony, c'était des gens de la famille. C'était une mère, un père qui transportait son fils jusque dans le lit. C'était un ami, un meilleur ami qui acceptait de faire 4-5 heures de voiture pour venir nous voir. Et c'est grâce à ces gens-là qu'on peut y arriver, parce que c'est certainement pas sur le Québec qu'on va compter pour avancer dans ce dossier-là. Là.
Non.
Non, il y a vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose qui se fait au niveau du Québec. Malheureusement, les deux seules réalisations qu'on a depuis un certain temps, c'est un centre intégré pour la vie autonome qui parle de sexualité et handicap, qui est conçu pour les personnes aidantes, entre autres, c'est bien. Et il y a aussi le Centre des femmes de Montréal qui a fait une série d'ateliers sur la sexualité aux personnes handicapées, mais tu sais, c'est à Montréal, là. Ici, on peut-tu aussi ouvrir quelque chose, faire quelque chose qui ferait en sorte que ces gens-là auraient accès peut-être pas à une auxiliaire sexuelle, parce que le Québec n'est pas rendu là, on voit encore ça comme de la prostitution, mais est-ce qu'on pourrait pas enseigner une certaine autonomie sexuelle, contribuer à détruire ce tabou-là?
Il y a des gens aussi qui vont être formés, parce que c'est pas tout le monde qui a nécessairement l'aisance ou les connaissances. Ouais, tu sais, moi, demain matin, tu me dis, essaie d'aider quelqu'un qui a des limitations physiques. Je sais pas par où commencer, je connais pas ça, j'ai pas la matière. Je manque de ressources moi-même pour aider quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Fait que je pense qu'il y a de ce côté-là aussi qu'on doit avancer.
Puis il faut penser que cette personne-là, souvent, ne peut pas communiquer verbalement. Ça arrive des fois qu'elle ne puisse pas communiquer verbalement. Ça arrive des fois aussi que la personne, elle n'est pas totalement en capacité mentale. Elle peut y avoir un retard mental léger, comme par exemple, il est capable de dire que c'est ce qu'il veut, bien entendu. Mais la communication se fait parfois pas toujours de la bonne façon. Des fois, ça peut être malentendant. Donc, ça fait en sorte qu'il faut vraiment être à l'affût de tous les signes que cette personne-là peut envoyer, de faire preuve d'une humanité extrême. Et puis, si vous pensez que c'est de la sexualité... Bien, la majorité des gens, non, ce n'est pas le cas parce qu'ils ne peuvent pas avoir de relation complète en tant que telle. Mais pour eux, là, juste d'écouter un film avec quelqu'un à côté d'eux, de se faire masser les cheveux, là, c'est assez pour faire leur mois puis leur année, tu sais.
C'est une dose d'amour.
Exactement. C'est de l'amour en concentré beaucoup plus que de la sexualité. Mais il y en a pour qui aussi, comme dans les beaux malaises. C'était très, très génital. Puis c'est correct aussi, parce que c'est un besoin. On va pas se le cacher, là. Je veux dire, c'est pas que du Netflix and chill. C'est un besoin aussi.
Il y a de tout.
Physique, ouais. Absolument.
Selon les besoins de la personne concernée. Je trouve ça le fun qu'on parle de ça, parce que j'ai l'impression que... En tout cas, moi, je m'y connais vraiment pas. 88-971-1021, je sais pas si vous avez des gens comme ça dans mon entourage, des témoignages par rapport à ça. Est-ce que c'est... Tu sais, je connais des gens qui sont limités, mais j'ai jamais abordé le volet sexuel avec eux. On dirait qu'on a une tendance à prendre seulement les besoins de base en compte. Tu sais, quelqu'un qui est limité, on va s'arranger pour qu'il mange bien, qu'il dorme bien, qu'il soit au chaud, qu'il soit habillé. Mais je veux dire, à part ça, on se pose pas tant de questions par rapport à ça. Puis avant de te rencontrer, honnêtement, je m'en étais jamais posé non plus.
Oui, puis pour ceux qui sont intéressés, là, moi, j'ai décidé d'en parler parce qu'il y a une série documentaire qui sort le 14 février sur Ami Télé qui s'appelle « Touché ». C'est une série documentaire qui aborde un tabou dans la société, qui est la sexualité des personnes en situation de handicap. Et ça passe la vie de 6 personnes qui ont accès à des services d'auxiliaires sexuels. Et c'est une série documentaire pour laquelle j'ai été approchée.
Ah,
oui, à l'époque, j'ai été approchée pour en faire partie. Finalement, ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons, mais c'est une excellente série documentaire que je vous invite à écouter, que vous ayez quelqu'un dans votre entourage ou que vous soyez juste pas conscient de la réalité. Puis tu parlais de la réalité des personnes handicapées, mais il y a aussi la réalité de deux personnes handicapées ou limitées ensemble physiquement qui ont besoin d'avoir des relations sexuelles. Ça aussi, on n'y pense pas, comme par exemple, moi, je souffre de fibromyalgie. Hein? Des fois, je peux avoir une jambe qui ne marche pas. Des fois, je peux avoir un bras qui ne marche pas. Puis, des fois, je ne pourrais ne pas être capable d'avoir une relation sexuelle. Mm-hmm. Si j'étais en couple avec quelqu'un qui fait de la sclérose en plaques, par exemple, pas sûr que notre vie sexuelle serait comme celle de tout le monde. Hein? Ouais. Je pense qu'on aurait besoin de s'adapter un petit peu.
Puis, le truc. De...
Effectivement. Puis, tu sais, pour ceux qui sont à l'écoute et qui ont des difficultés, là, il en existe des choses, hein? Entre autres les coussins d'angle. Ça a l'air niaiseux, là, mais
c'est
quand... Bien, un coussin d'angle, c'est un coussin qui est fait en toutes sortes de formes pour pouvoir venir se positionner de différentes façons, sans avoir à soutenir par ses abdominaux, sans avoir à soutenir ses jambes dans les airs. C'est comme un divan qui se défait en plein de petites fonctions. Et puis, ça fait en sorte qu'on peut l'utiliser partout. Et il y a aussi la chaise de chevauchage qu'on appelle. Vous avez peut-être vu ça. Hein, la dame s'assoit sur une petite balançoire et l'élastique fait en sorte que ben on peut chevaucher son partenaire sans avoir à forcer par ses jambes. Toutes ces choses-là, vous pouvez les trouver très facilement sur plein de sites, Amazon, entre autres, les boutiques érotiques. Allez-y parce que honnêtement, c'est ce qui fait en sorte que votre sexualité, si vous êtes limité, le moindrement, pourrait énormément changer. En tout cas, moi, des coussins d'angle, j'en ai des gonflables, des moelleux, des moins moelleux.
On dirait qu'on pense pas à ça parce que ça a tellement pas l'air naturel. Puis comment je dirais ça? On aime la spontanéité des fois, on dirait, dans la sexualité. Ouais. Hein? Puis ça
c'est
ça
que
prend
gonfler.
La prévision. Là, c'est...
gonfler ton petit coussin avant, c'est un petit peu sur ça. Mais je pense que c'est quelque chose que les personnes en situation d'handicap sont prêtes à vivre avec.
Définitivement.
Parce que de toute façon, si tu es en situation d'handicap, il faut t'aller aux toilettes. Tu as déjà tout un procédé à suivre avant. Pour ton hygiène, c'est la même chose aussi. Puis tu sais, c'est vraiment pas évident. Puis j'ai envie de dire un gros bravo aussi aux personnes qui s'occupent des personnes en situation d'handicap. Ça doit pas être facile d'être une infirmière puis d'en train de donner un bain, puis soudainement...
Il y a une érection.
Là, tu te dis, es-tu en train de penser à moi, lui-là? Là,
oui, voyons, j'ai retrouvé.
Effectivement. Fait que je comprends que ça peut être choquant.
Ça sonne indécent, je pense que c'est plus ça. Puis ça doit tellement être gênant pour ces gens-là qui ne le contrôlent pas nécessairement.
Mais vous devez savoir que si vous m'écoutez présentement, que c'est déjà arrivé, ne capotez pas avec ça, c'est involontaire. Les érections, on le sait, ce n'est pas quelque chose qui est volontaire. Hein, Max, à 4 heures du matin?
Ça arrive le matin que tu te réveilles puis tu fais, ah ben, je devais être en train de rêver à quelque chose. Là.
Exactement. C'est le niveau de testostérone dans le sang qui varie du matin jusqu'au soir. Fait qu'on peut pas s'attendre à ne pas avoir de petit écart comme ça, surtout si en plus t'as jamais de toucher, t'as jamais été chouchouté, on dirait ça de même.
J'ai ma petite idée sur la réponse, mais qu'est-ce qui fait qu'une auxiliaire sexuelle puisse pas accompagner quelqu'un pendant trop longtemps? C'est-tu pour pas habituer cette personne-là à son auxiliaire sexuel, puis que ça devienne juste comme une habitude, puis qu'il y ait ça devient quasiment une relation inappropriée.
Entre autres, c'est surtout pour l'attachement émotionnel. Ouais. Parce que veux, veux pas, ces gens-là, tu deviens un peu leur seule option temporaire. Ça devient facile pour eux de s'attacher au-delà de la relation d'aide qu'on veut leur apporter. Puis c'est même difficile pour moi, honnêtement. Il y a des clients que je porte encore dans mon cœur, puis tu sais que j'ai des contacts avec eux, je prends de leurs nouvelles. C'est difficile, mais on n'a pas le choix parce qu'il faut leur apprendre cette autonomie-là parce qu'à un moment donné, on pourra plus être, on peut pas être là, malheureusement. Mmh. D'autant plus que ce n'est pas légal ici au Québec. C'est la raison pour laquelle je ne le pratique plus. Mais ça demeure un dossier que je suis prête à réouvrir. Là, si à un moment donné, il y a du monde qui a le goût d'aller au front avec moi, là, en chaise roulante ou en béquille.
Appel à tous.
Bien, certain, c'est
Val,
un beau dossier.
Je suis contente qu'on ait parlé de cet angle-là. Si le métier d'auxiliaire sexuel vous intéresse, vous êtes curieux, je vous ramène à aller écouter Sextape. On a passé quand même un bon 50 minutes sur le sujet, à parler de comment t'en es arrivé à faire ça, qu'est-ce que t'apprends à ces gens-là précisément. On a raconté des moments cocasses, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci encore une fois.
Ça fait plaisir.
Je trouve ça le fun d'ouvrir ce sujet-là de temps en temps. Je veux dire, ça meurt pas puis ça vaut la peine d'être traité. Si vous avez besoin de consulter Val, qui est conseillère en sexologie, c'est mademoisellev.com.
Oui.
MLLEV.com.
L'abréviation, oui.
Val, merci beaucoup, Audrey. Merci. On t'écoute dans le retour tantôt et dans le Rock and Chill en fin de semaine, en matinée, avec le petit café. Puis on te souhaite bonne chance avec ton véhicule électrique que tu utilises plus ou moins à l'occasion. Au retour, on fait le tour des nouvelles. On jase sport aussi. Prédictions pour les deux finales de conférence dans la NFL en fin de semaine. Mes Seahawks de Seattle qui seront notamment en action. Quatre équipes qui tenteront d'obtenir une des deux places disponibles pour le Super Bowl qui sera disputé du côté de San Francisco dimanche dans deux semaines. On se jase aussi course à la chefferie à la Coalition Avenir Québec. On a officiellement quelqu'un qui va se lancer dimanche. On a quelqu'un qui devrait se lancer dans les prochains jours. On a quelqu'un qui y pensera encore, même deux quelqu'un qui y pensera encore. Et on a un retrait aussi qui est arrivé dans la dernière heure. Et on se parle aussi de fraude. Ça vous arrive-tu de recevoir des petits messages qui vous disent « Hey, j'aurais une job pour toi. » Souvent, c'est en anglais, puis tu comprends pas trop pourquoi. Tu reçois ce message-là, ben c'est ça l'affaire, tu le reçois parce que c'est une fraude. Fait que 88-971-101 numéro pour nous joindre en studio. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard, il est 11h25. Le Point de Max.